carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia Dehuit.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Waterloo, 18 juin 1815. N'est-ce pas la bataille de Napoléon la plus fascinante ? Est-ce parce que c'est la dernière ou est-ce parce que les romantiques, mais aussi les vainqueurs de la glorifièrent ? Il faut dire qu'ils obtenaient enfin leur revanche sur le souverain qui les avait tenus en échec. Au soir de la bataille, il ne leur manquait finalement qu'une chose, Napoléon. N'ayant pas capturé l'empereur, les Prussiens accordèrent une dimension particulière au pillage de ses effets personnels et firent grand cas de la prise de sa voiture. Près de deux siècles après Waterloo et la chute de Napoléon, la berline de l'empereur et une partie du butin conquis par les Prussiens sont pour la première fois présentées à Paris pour une exposition exceptionnelle qui se tient au musée de la Légion d'honneur jusqu'au 8 juillet 2012. Pour ceux qui n'auront pas la chance de se rendre sur place, je les renvoie au catalogue de l'exposition « La berline de Napoléon » publiée chez Albin Michel et dirigée par Jean Tullard de l'Académie des sciences morales et politiques. Grâce à nos deux invités d'aujourd'hui, nous allons tenter donc, dans cette émission, de retracer l'histoire de ce fameux butin de Waterloo et d'élucider certains mystères s'y rapportant. Nous parlerons aussi des pièces constituant le butin et présentées à la Légion d'honneur. Pour cela, j'ai donc le plaisir de recevoir deux des auteurs du catalogue, Madame Amde de Chef-de-Bien, conservateur au musée de la Légion d'honneur, et Monsieur Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Quelle histoire en effet que celle de ce butin et donc de cette exposition. Je me tourne vers vous, Madame de Chef-de-Bien. C'est la première fois finalement que la Légion d'honneur, que le musée de la Légion d'honneur présente les décorations de Napoléon Ier. C'est incroyable, non ?
Oui, c'est tout à fait incroyable, d'autant que ces décorations, jusque vers les années 2000, on ne savait pas où elles étaient. On suivait leur parcours jusqu'à Berlin, et puis elles disparaissaient en 1946, et les pires hypothèses couraient dans les dossiers que j'ai pu compulser. Avait-elle été détruite ? Avait-elle été cachée chez les uns et chez les autres ? Et pas du tout, elles ont réapparu donc au musée historique de Moscou à l'occasion d'une exposition sur les deux empereurs Alexandre et Napoléon Ier. Et les Russes ont accepté exceptionnellement de nous les prêter avant de les présenter de façon tout à fait pérenne dans leur musée Napoléon, la fameuse aile qu'ils font pour célébrer le bicentenaire de 1812.
Alors nous allons plonger dans l'histoire rocambolesque du butin de Waterloo et dans le contexte de la prise des voitures de l'empereur. Avec vous, Thierry Lenz, qui consacrait un chapitre dans le catalogue de l'exposition. Il s'agit finalement d'une histoire difficile à écrire, en raison de la documentation, si j'ai bien compris, peu fiable et rare.
Oui, disons qu'on savait jusqu'à présent qu'à la fin de la bataille de Waterloo, dans la panique générale qui a étreint l'armée française, des voitures de Napoléon avaient été prises par les Prussiens. On savait qu'il y en avait deux. En fait, dans le catalogue, Pierre Branda nous montre que d'autres voitures de ce qu'on appelait la maison de l'empereur, donc les services qui entouraient Napoléon, ont été prises. Chacun, dans ses mémoires, a raconté un peu l'histoire, je dirais, à sa façon. La façon la moins historique étant celle utilisée par les officiers prussiens qui disaient que, en fait, ils avaient pris les voitures alors que Napoléon était encore à l'intérieur, etc., etc. En réalité, ce qui est très difficile, et encore le travail que nous avons fait peut être contesté, c'est de savoir, au fond, bon, à quel moment les voitures ont été prises, ça on arrive quand même à le savoir. Ce qu'elles contenaient, ça reste encore un grand problème. Mais je dirais qu'au fond, c'est pas très très important, parce que aujourd'hui, ce qui est présenté à la Légion d'honneur est, je dirais, une collection assez sûre. Ce sont vraiment des choses qui appartenaient à Napoléon et qui étaient dans une des voitures de la maison de l'empereur, ensuite qu'elles étaient sous le siège de l'une ou dans la malle de l'autre, c'est un débat qui reste encore ouvert.
Donc deux voitures différentes ont été saisies, dans celle qui appartenait personnellement à l'empereur, parce que comme vous l'avez dit à l'instant, il y en a plusieurs qui appartenaient à la maison. Donc une berline et un landau.
Voilà, alors ce que peut-être nos auditeurs ne savent pas encore, mais ils le sauront dès qu'ils auront lu le livre de Pierre Branda sur la maison de l'empereur, c'est que Napoléon en déplacement ne se déplaçait pas, je dirais, avec des véhicules de l'État, mais avec des véhicules qui lui appartenaient en propre au travers d'une institution qui s'appelait la maison de l'empereur. Donc dans ces véhicules, lui servait à ses déplacements, on voit toujours Napoléon à cheval, il voyageait beaucoup en voiture, et notamment l'étiquette voulait que l'empereur ne quitte pas le champ de bataille à cheval, mais le quitte dans une voiture. Donc c'est à cette fin que des voitures étaient toujours positionnées, non loin de la garde impériale, sur les champs de bataille, afin de permettre à Napoléon à la fois de se déplacer rapidement, et ça c'est l'hypothèse Landau, ou alors de quitter le champ de bataille, j'allais dire pas cérémonieusement, mais enfin en tout cas en souverain, et ça c'est le cas de la berline. Alors, ces deux voitures attendaient Napoléon à la fin de la bataille de Waterloo à deux endroits différents. Ne voyant pas arriver Napoléon, les responsables des convois les ont fait converger vers le seul point de passage de la rivière qui était que les fuyards devaient franchir, qui se trouvait près de la commune de Genappe. Et à cet endroit, il y avait une telle cohue, il y avait un véritable embouteillage de canons, de voitures, de fantassins, de cavaliers, que sais-je encore. Ces voitures ont été retardées et donc ont été saisies par des soldats prussiens qui poursuivaient l'armée française.
Et aussitôt, les Prussiens commencent à les piller.
Voilà, alors elles ont été immédiatement pillées, je dirais, par les soldats, hein, qui se sont servis, alors d'abord, sans doute avec des objets, puisqu'on en a retrouvé quelques-uns qui viennent de ce premier pillage. Et puis, ils ont aussi beaucoup pillé les valeurs qu'il y avait à l'intérieur de la voiture, dont un collier de diamants, dont ce qu'on appelait des diamants en grains, c'est-à-dire des diamants non montés, que Napoléon avait emportés avec lui, parce qu'il emportait toujours des fonds importants, à la fois pour ses besoins, mais aussi pour financer un certain nombre d'opérations qu'il aurait voulu financer sur sa cassette personnelle. Donc, il y a eu un premier pillage. Puis des officiers généraux sont arrivés, ont arrêté ce pillage, ont récupéré les voitures afin qu'elles soient les trophées du vainqueur. Et donc l'une a été immédiatement envoyée par un des officiers à son épouse en Allemagne et l'autre a été offerte au feldmaréchal Blücher, qui lui-même l'a envoyée à son épouse avec un certain nombre d'effets qui avaient été retrouvés dans les voitures, un chapeau, une redingote... sans doute les décorations.
Voilà. On va détailler un peu plus sur le butin. Mais alors, de nombreuses légendes se rapportent à cet épisode de la prise des voitures de Waterloo.
Oui, alors la légende, généralement, elle naît de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on peut supposer. Et bon, la principale, c'est que la prise des berlines, si on peut dire les choses comme ça, dont vous avez remarqué qu'aucune des deux n'est vraiment une berline, mais enfin, on les appelle comme ça, la prise des berlines a donné lieu à des récits héroïques, du genre que c'est au moment où Napoléon montait dans sa voiture, par l'autre porte est apparu un Prussien, donc il s'est sauvé, tête nue, sans armes, etc., ce qui explique qu'on les ait récupérés, le chapeau et son épée. Une autre légende, mais qui, elle, semble plus avérée, c'est qu'un des postillons a voulu défendre la voiture, qu'il a été gravement blessé, qu'il en a perdu un bras. Et ce postillon, on le retrouve d'ailleurs plus tard dans l'histoire de ces berlines. Donc il y a, je dirais, des choses qu'au fond, on ne pourra jamais vérifier, car les témoignages sont... En réalité, à la fin de la bataille de Waterloo, au lieu de regarder les choses pour pouvoir témoigner, les gens n'ont pensé qu'à une chose, c'est à se sauver. Hein. Il y a eu une panique, comme il en arrive de temps en temps sur les champs de bataille, et qui décide de la journée, c'est-à-dire que tout le monde ne pensait qu'à une chose, c'était à se sauver. Alors, les employés de la maison de l'empereur ont fait ce qu'ils ont pu pour défendre les voitures, mais bon, il y a un moment où tout le monde a voulu, disons-le un peu trivialement, sauver sa peau.
Alors, comme vous le disiez à l'instant, il y a le feldmaréchal Blücher a donc récupéré le landau, et c'est ce landau qui est présenté à la Légion d'honneur, et il est conservé en effet dans les collections de la Malmaison. Comment est-il parvenu jusqu'à la Malmaison ?
Il est parvenu à Malmaison par un dépôt transformé en don. En 1973, les descendants du maréchal Blücher ont confié le landau à Malmaison, et en 1975, il a été décidé de le donner. Et donc depuis, le landau est dans le pavillon des voitures, donc en rentrant à droite dans le château de Malmaison.
Et en pas très bon état, si j'ai bien compris.
Non, il ne faut pas non plus exagérer. C'est vrai que c'est un landau qui après... Il a beaucoup voyagé, ce landau, puisqu'il avait été livré en 1812 pour la campagne de Russie. Livré en retard, l'empereur était déjà à Vilna. Caulaincourt était désespéré parce qu'il n'avait pas de serrure. Donc c'est pour la petite histoire, mais c'est amusant. Alors que les clés de la berline, celle qui a brûlé, nous les exposons aussi. Elles sont aussi à Malmaison, mais c'est les clés de la grosse dormeuse. Qu'Archambault, en sauvant sa peau, comme l'a dit Monsieur Lentz, avait soigneusement fermé quand même. Et prise avec lui. Donc le landau était très empoussiéré. Il était, bon, les bois, bien sûr, ont été attaqués par des insectes. Et donc il a fait l'objet d'une campagne de restauration menée dans le but pour pouvoir être exposé. Et cette campagne de restauration a été financée donc par la Société des Amis du Musée de la Légion d'honneur, que je tiens à remercier à cette antenne, parce que c'est quelque chose qui a été très généreusement mis en place.
Oui, et puis quelque chose que Madame de Chefdebien ne vous dira pas, parce que sa modestie est connue dans la ville, c'est qu'il faut absolument aller la voir là, parce que D'abord, elle a été effectivement très bien restaurée et elle est présentée de telle sorte qu'on la voit de près et qu'on peut tourner autour, c'est-à-dire qu'on la voit sous tous les angles, ce qui n'est pas toujours le cas à Malmaison. Et à Malmaison, il faut avoir en plus la chance que le musée des voitures soit ouvert, ce qui doit arriver à chaque mort d'évêque ou à peu près. Pour la journée du patrimoine, c'est-à-dire une fois par an. Donc il faut absolument aller le voir là parce que je crois, enfin on peut dire, d'abord, elle est mise en valeur, elle est bien éclairée, c'est véritablement...
Et avec les objets du butin.
Avec
donc,
les objets du butin autour. Tout autour. Tout a de l'intérêt dans cette exposition, mais c'est un des intérêts majeurs, c'est que là, on a véritablement l'objet, j'allais dire sous la main, non, c'est interdit, mais il est là, quoi. Hein, et on le voit, et on peut le voir et le revoir, puisque, vous le savez, c'est le musée de la Légion d'honneur, et d'entrée gratuite, donc on peut y aller, y retourner le lendemain, et y retourner encore le surlendemain.
Il fait bien votre publicité. On a évoqué donc l'histoire de la prise du butin, et on n'a pas encore parlé d'une partie très importante du butin, que sont les décorations, et donc qui sont présentées, bien entendu, au musée de la Légion d'honneur. Alors, où est-ce qu'elles ont été saisies?
Alors, probablement dans la voiture de Marchand. Ça, Pierre Branda a merveilleusement dénoué les chevaux de cette maison de l'empereur. Donc, les décorations, selon toute probabilité, étaient dans la voiture de Marchand qui transportait les effets de l'empereur. Pour les états officiels prussiens, les décorations ont été prises par le trompette Schmidt dans le landau. Donc c'est très amusant parce que dans les rapports officiels aux Prussiens, effectivement, les décorations venaient du landau en berline que nous exposons. Mais pratiquement, elles étaient probables avec dans la voiture de Marchand. Et Marchand raconte dans ses mémoires parfaitement comment il a dû abandonner sa voiture prise dans ce fameux embouteillage et a continué sa route à pied.
Et donc Napoléon se promenait sur les champs de bataille avec toutes ces décorations.
Ça paraît étrange, effectivement, mais Napoléon avait avec lui tout ce dont il aurait pu avoir besoin et que sa maison faisait suivre au cas où. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il aurait pu rencontrer, effectivement, ses alliés de la veille et leur montrer, justement, que l'ennemi d'aujourd'hui lui avait offert les décorations qui étaient des témoignages d'amitié et d'alliance. Donc, c'était quand même formidable comme outil politique. Il ne faut pas oublier que les décorations donc, reflètent d'une façon extrêmement précise la politique diplomatique et hégémonique de l'empereur.
Oui, c'est mis en valeur d'ailleurs par un très bon chapitre de Michel Quérotré dans le catalogue. Donc ces décorations de Napoléon Ier, à la limite pour les objets qui sont marqués du N ou autre chose, c'est facile de les identifier. Ces décorations, comment peut-on être sûr qu'elles sont vraiment de Napoléon? Puisqu'il y avait aussi des décorations, je crois, qui appartenaient au roi Jérôme dans les voitures.
Enfin. Alors, je ne suis pas sûre que le roi Jérôme ait fait suivre ces décorations. Je pense qu'il y a des décorations, par exemple, de Marais. Parce qu'effectivement, Marais, le duc de Bassano, avait sa voiture à côté et lui a abandonné sa voiture et continue à pied. Donc, il est possible que certaines décorations... Mais pour ce qu'il est des décorations de Napoléon, c'est relativement... facile. Il faut toujours croire quand même leur histoire. On a un inventaire de la garde-robe de l'empereur en 1812 qui détaille tous ses ordres étrangers. Et on voit très bien que dans son testament, il ne reste plus qu'un collier de la toison d'or, un ordre étranger. Donc, entre-temps, les décorations se sont volatilisées. Et on sait que le maréchal Blücher, le 19 juin au matin, reçoit une cassette avec tous les ordres de l'empereur à l'intérieur. Que fait le maréchal Blücher? Il distrait quelques pièces qu'il va donner aux officiers d'état-major qui l'entourent ce matin-là, et le reste, il l'envoie au roi de Prusse. Le roi de Prusse, conscient de l'importance de cette prise, parce que c'était quand même extrêmement symbolique, met les décorations immédiatement dans les collections royales, dans une vitrine, où elles vont rester, elles passeront de musée en musée, mais on les suit vraiment pièce à pièce. Et dès 1905, on a des photos de cette vitrine au moment où on fait des campagnes de photos dans le Zunghaus. En 1919, les décorations vont être cachées par les patriotes allemands qui ont peur que la France ne les revendique. En 1932, elles vont être redemandées très officiellement pour une exposition et elles vont réapparaître miraculeusement. Et donc là, on s'est posé la question, mais comme on a des photos faites en 1905 et des photos faites en 1934, et qu'on peut comparer, on se rend très bien compte que ce sont bien les mêmes insignes qui ont réapparu. Et alors, elles redisparaissent à nouveau. C'est vraiment des décorations qui ont vécu des troubles, les convulsions de la construction de notre Europe d'aujourd'hui. Et donc, elles réapparaissent. Elles sont cachées d'abord dans le bunker du zoo de Berlin, puis elles vont passer d'abri en abri, comme tous ces trésors d'Allemagne, vont finir par être saisies par les soviétiques et prises dans ces fameux convois. On a même le numéro du convoi que les Russes nous ont donné. Elles vont arriver à Moscou, et là, elles vont être cachées dans les réserves du musée historique de Moscou, jusqu'à ce qu'en 2000, ils les publient et les exposent.
Donc, sont exposés aussi au musée de la Légion d'honneur le chapeau et le manteau que Napoléon, soi-disant, portait le jour de la campagne de Waterloo, a priori d'ailleurs non, d'après ce que j'ai compris.
Alors, le chapeau est bien le chapeau que l'empereur portait à Waterloo. C'est un chapeau qui est aujourd'hui au musée de Sens, où il a été donné par un général originaire de la ville de Sens. Et en fait, Napoléon avait son chapeau qui avait été très abîmé. Vous savez qu'il a beaucoup plu à Waterloo. Et donc, le chapeau avait été confié au chapelier pour qu'il soit remis en forme lors du bref passage du souverain à Paris. Et le chapeau est resté chez le chapelier. La petite fille du chapelier l'a donné à ce fameux général. Donc, les Prussiens ont pris dans une des voitures le chapeau de rechange qui, lui, est aujourd'hui exposé au musée de Berlin et qui est quand même un chapeau de l'empereur, mais n'est pas le chapeau qu'il avait sur sa tête le jour de Waterloo et qu'il aurait laissé tomber en fuyant.
Merci beaucoup. Et je précise aussi qu'on trouve dans l'exposition l'épée. De nombreux mystères s'y rapportent aussi, qu'on n'aura peut-être pas le temps de détailler à ce micro. J'invite donc nos auditeurs à aller au musée de la Légion d'honneur jusqu'au 8 juillet 2012. Merci infiniment Anne de Chef de Bien et Thierry Lenz.